Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Jeu pervers. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement, CVRP. Je venais d'avoir 21 ans. Après mes examens, je décidai de quitter Paris pour aller rejoindre mon oncle et ma tante à Saint-Romain en Bretagne. C'était une idée qui m'était venue comme cela. Je ne savais pas où aller, étant sans connaissance ni famille à part eux. Donc je pris le train le 8 juillet à 8h30. Il faisait beau et le soleil n'était pas encore trop chaud. Le voyage se passa sans incident. J'arrivais à 19h à la gare de la ville de, puis prenais une carriole. Mon oncle habitait une grosse maison à 5 minutes de la plage, en bordure de route, presque au pied d'une falaise. Thank you. C'est une grosse bâtisse de 2 étages recouverte de lierre. Par beau temps et en plein jour, la maison et le lieu sont beaux et romanesques. Mais à la tombée de la nuit, ou par jour sans soleil, cela devient lugubre. Quant à moi, j'aime les 2 contrastes. Cariole s'arrêta devant le perron. Je descendais, prenais ma valise et sonnais à la porte d'entrée. C'est la vieille petite et sèche domestique qui m'ouvrit.
Oh, monsieur Albert!
Et oui, Émilie? Elle me fit entrer. Grand hall. Et au fond du hall, escalier de pierre. Elle me prit ma valise. Où sont-ils, Émilie?
Monsieur et madame sont au salon.
Tout à coup, je vis descendre des escaliers une jeune femme grande, mince, brune, le visage très clair. Elle était habillée d'une robe beige et semblait avoir dans les 22 ans. S'approcha de moi. Elle me toisa, son regard m'intimida.
Monsieur, je suis la gouvernante.
Je suis le neveu de...
Ah, bien! Mais monsieur n'avait pas prévenu de sa visite. Nous aurions fait chercher. Je vais prévenir monsieur et madame de votre arrivée.
Se retourna et ouvrit la porte du salon. Entra. La porte se rouvrit aussitôt. Mon oncle et ma tante, les bras tendus, mon oncle vint me serrer la main le premier.
Quelle bonne surprise que tu viennes nous voir!
La tante s'approcha.
Je suis très heureuse de te revoir.
Il me prit chacun un bras pour me mener au salon. Mon oncle est grand, gros et fort. Il porte cheveux et moustaches noires. Il a un costume gris et a 45 ans. Sa femme est plus petite que lui. C'est une femme forte, bien en chair. Ses cheveux gris adoucissent son visage. Il me fit asseoir dans un fauteuil en cuir marron anglais. Mon oncle me demanda si je désirais boire quelque chose.
Non, merci.
Tu restes avec nous combien de temps?
Je ne sais pas, peut-être 1 semaine ou 2.
Ma tante s'approcha de moi.
Tu n'as rien de prévu pour tes vacances, reste avec nous.
Je vous remercie.
J'étais fatiguée et demandais la permission de me retirer dans ma chambre qui se trouvait au 2e étage. Elle était à côté de celle de mon oncle et de ma tante. C'était ma chambre, celle que j'avais chaque fois que je revenais séjourner chez eux. Elle était spacieuse et claire. Un lit à une place, une table de nuit, une armoire penderie, une grosse commode, le tout en chêne massif qui sentait bon la cire. Aussitôt dans ma chambre, je m'allongeais tout habillé sur le lit. Deux heures plus tard, la bonne frappa à ma porte pour me prévenir que l'heure du dîner approchait. Je n'avais pas faim, mais allais tout de même à la salle à manger qui se trouvait au rez-de-chaussée. J'y retrouvais mon oncle, ma tante et la gouvernante déjà attablées. La pièce par rapport à ma chambre était sombre et lugubre. les meubles trop gros, grands et sombres, la tapisserie défraîchie. Le repas se passa sans histoire. Je remarquai simplement que ma tante n'avait pas d'appétit et semblait lasse, que mon oncle et la gouvernante ne cessaient de la regarder. Nous sommes allés au salon passer la soirée. Mon oncle me proposa de jouer aux dames. Ma tante brodait et la gouvernante lisait. Voilà, un début bien ennuyeux au possible. Mais qui puis-je, si ce qui fait l'histoire n'est entouré que de choses sans importance? La vérité, c'est que les événements extraordinaires, bons ou mauvais, ne se reproduisent pas tous les jours. Avant de continuer, je dois vous dire, c'est que j'ai 20 ans, je suis orphelin de toujours, j'aimais la solitude et la science, il m'arrivait de passer des heures à regarder les fourmis. Au bout d'un moment, je m'excusais et allais prendre l'air. La nuit était douce et l'on entendait le bruit des vagues. L'air me fit du bien et je marchais pendant une demi-heure en longeant la falaise. À mon retour, il faisait noir. Je voyais la fenêtre du salon éclairée, m'approchais de cette fenêtre attirée comme le papillon par la lumière. Était assise au fond de la pièce. Mon oncle debout regardait la gouvernante remplir un verre de vin. Elle était à une petite table face à la fenêtre. Une fois que le verre fut rempli, elle sortit de la poche de sa robe une petite tabatière, l'ouvrit et versa dans le verre une poudre blanche. Ensuite, elle se retourna. L'oncle furieux s'approcha d'elle, prit le verre, le renversa. Il se brisa. La tante se leva et dit « Que se passe-t-il ? » ?»«
Rien, je suis maladroit, j'ai fait tomber ton verre, je vais t'en préparer un autre. »«
Non, merci, cela va. »
Ce que je venais de voir me troubla. Je me demandais ce que pouvait avoir bien mis la gouvernante dans ce verre. Et mon oncle, quelle complicité y avait-il entre eux ? Je rentrais et décidais de suivre de près les habitants de cette maison. J'entrais au salon pour leur souhaiter bonne nuit. Ma tante était assise et mon oncle et la gouvernante debout. L'oncle, les mains dans les poches, soupirait. La gouvernante le regardait avec dédain. J'avais l'impression d'assister à une scène, comme au spectacle, comme au théâtre. Je prenais congé d'eux. Dans ma chambre, dans mon lit, mon excitation était grande. Je sentais qu'il y avait quelque chose au-delà des apparences. Ce n'était plus ma famille, mon oncle, ma tante et la gouvernante. Je n'étais plus avec eux. Je voyais des personnages évoluer. Moi, spectateur, je devais trouver leurs secrets, comme par jeu, plaisir. Le lendemain matin, en me réveillant, je décidai de chercher ce qu'il y avait derrière leur masque. Ce matin-là, il faisait si beau que nous avons pris notre petit déjeuner sur la terrasse. Nous entendions le bruit des vagues, musique lancinante et en même temps pleine de fougue. Ils paraissaient tous de bonne humeur, mais je trouvais ma tante lasse.
Vous n'êtes pas bien, ma tante ?
Oh, je suis un peu lasse. J'ai eu un petit malaise cet hiver à Paris. Le médecin m'a prescrit quelques calmants.
Dans la journée, nous nous sommes promenés dans les environs. Dans la nuit, j'avais soif, puis descendu pour aller chercher un verre d'eau à la cuisine. M'approchant de la porte de la cuisine, j'ai entendu du bruit. Plaquer mon oreille.
Tu ne peux pas attendre un peu. Je ne peux pas agir tant qu'il sera là.
La gouvernante. Non, j'en ai assez. J'en ai assez. Si tu ne l'agis pas, je le ferai.
Cela suffit, Gertrude. Nous agirons quand je te le dirai.
Des pas. Me retirer de la porte en vitesse. Pour cacher derrière un pilier, la porte s'ouvrit. Sortir. Je n'avais plus soif. J'avais tout compris. Ils me demandaient comment ils allaient s'y prendre pour... S'ils ne me faisaient rien. Pour moi, ce n'étaient plus des êtres, mais des personnages de romans. La victime, la future victime. Il en fallait bien une pour le jeu. Pourtant, j'aimais bien ma tante. Mais c'était elle qui avait été choisie. Et le but de ce jeu, c'était qu'elle... À moi, que je me sois trompé, que tout ceci ne soit que le fruit de mon imagination. Pourtant, je ne suis pas un criminel, ni un immoral ou amoral. Bien au contraire, je suis à cheval sur les lois. Mais là, je veux savoir comment ils feront. Et puis, lorsqu'on lit un livre où le personnage sont immoral, on ne se pose pas la question à savoir si notre plaisir à suivre et à vouloir la réussite des exploits du héros est moral ou non. Cela fait partie du jeu. C'est le personnage qu'il est par le spectateur, mais dans la vie, la vraie vie. Le lendemain matin, au petit déjeuner, j'étais assis en face de ma tante. Elle me dit en souriant,
« Tu sais, Aubert, l'on t'aime bien. Je suis très heureux de t'avoir avec moi. Marie et moi n'avons pas d'enfants. Tu es un peu le nôtre. »«
Avez-vous à parler à voix basse ?»«
Rien, Lucien. Il se fait beaucoup de soucis pour moi. Pauvre Lucien. Tu ne dis rien, Aubert ?»«
Non, je ne disais rien. J'attendais que les choses se fassent. Mais dans la vie, les événements sont plus longs à se mettre en route. » Il y a beaucoup de temps mort. Alors, pour passer le temps, l'après-midi, je prenais un petit bateau de pêche et partais au large, seul, entouré d'eau et de soleil, je somnolais. boire, je les ai vus encore une fois. Il sortait de la cuisine. Il la gifla. Puis il la prit dans ses bras et l'embrassa. Ce baiser me semblait d'une fougue incomparable. Un matin, ma tante ne se trouva pas au petit déjeuner. Mon oncle me dit
« Elle est souffrante, le cœur. Il ne faut surtout pas la déranger. »
Je n'avais aucune envie de la déranger. Je me disais que la machine était en marche. Le médecin vint. Elle était vraiment malade. Elle ne se levait plus. Le médecin avait dit qu'il fallait lui éviter les contrariétés. Mon oncle semblait vraiment navré. Mais l'était-il réellement ? Un jour sur la plage, alors que j'étais allongé après avoir mangé, une jeune fille vint vers moi. Elle était grande, mince, avec de longs cheveux blonds qui descendaient jusqu'à la taille. Son visage était lumineux et serein. Elle semblait avoir dans les 18 ans. Elle était habillée d'une tenue de plage blanche.
Monsieur, pouvez-vous me rendre un service ?
Je me soulevais.
« Oui, mademoiselle, j'ai mon chapeau, le vent l'a emporté, là-haut, sur ce rocher. »
Je me levais et voyais un chapeau blanc sur un rocher qui se trouvait au bord d'une falaise. Je fis oui de la tête et courais monter le chercher. Je le lui rapportais. J'étais très heureuse que je lui rapportasse son chapeau.
« Merci, monsieur. » »«
Ne m'appelez pas monsieur, cela me gêne, mais plutôt Aubert. »«
Vous avez un joli prénom, moi c'est Claire. »«
C'est très joli aussi. » Elle mit son chapeau sur la tête et comme le vent soufflait, elle le maintint avec sa main. Nous sommes mis à marcher.
Je suis anglaise, née en Italie. Mes parents n'étaient pas mariés. Mon père est le plus grand poète de son temps. Beaucoup de gens disent que c'est le diable. Il est vrai qu'avec sa jambe et sa conduite, c'est l'homme le plus immoral que je connaisse. Il a mené une vie invraisemblable pour un honnête homme. Mais je l'aime, parce que personne ne l'aime. C'est dur d'être le diable, vous savez. Et vous ?
Je souris. Moi ? Qu'allais-je dire de moi ?
J'ai 21 ans, je suis étudiant en sciences à Paris, orphelin et passe mes vacances chez mon oncle.
S'arrêta de marcher, me regarda et me dit « Vous avez de beaux yeux, vous êtes bon. » Et elle partit en courant. Courut derrière elle pour la rattraper. La rattrapait, la faisait tomber sur le sable et m'allongeait sur elle.
« Lâchez-moi, je ne peux aimer que le diable. »«
Mais je suis le diable. »«
Non, vous êtes seulement diabolique. »
Je me sentis gênée. Me levai, elle se leva. Il défroissa ses vêtements.
« Oh mon Dieu, mon chapeau !»
La course que nous avions menée, il en avait profité pour s'envoler.
« Je suis confus. »
Elle sourit.
« Ce n'est rien.
Je vous en achèterai un autre.
Si nous le revoyons. »
Elle partit en courant. La laissait disparaître à l'horizon. Ma tante tante était toujours alitée et je sentais une certaine nervosité chez mon oncle et sa gouvernante. Je me disais que peut-être ils allaient agir. Qu'allaient-ils choisir? Le poison? L'étouffement? Pour le moment, c'était moi qui étouffais. L'ambiance était devenue irrespirable. Personne ne parlait. Chacun était dans son coin. Lui ne devait pas oser agir et elle lui en voulait. J'avais envie de les aider, faire avancer les choses. Mais comment? À midi, je retrouvais la jeune fille au chapeau. Elle en avait un autre. J'allais vers elle. Vous n'avez pas attendu que je vous en offre un? Non, je n'aime pas m'attendre. Je suis comme mon père. Alors, je lui dis, vous m'avez bien dit que vous étiez la fille du diable. Oui. Le diable, comment agit-il pour faire disparaître une personne? Il la brûle. Comme cela, il ne reste plus que des cendres. Je lui souris, lui pris la main et lui dis, je ne suis peut-être pas le diable, mais je sais reconnaître le génie du diable. Et l'entraînait dans une course folle sur la plage. Rester toute la journée à courir, rire. Elle me dit des poèmes étranges qu'il est vrai sentait le soufre. Soir, je rentrais, essoufflé, fatigué d'avoir couru, mais heureux, et pensais que j'allais pouvoir bientôt savoir si mes soupçons étaient réels. La soirée était tellement chaude que nous avons décidé de la passer sur la terrasse. Mon oncle, moi et la gouvernante, on entendait le bruit de la mer. Alors je me mis à dire, cet après-midi j'ai rencontré une fille charmante sur la plage. Ils ont passé l'après-midi ensemble à jouer à un drôle de jeu. Elle me dit qu'elle était la fille du diable et de là, je lui ai posé des questions. Vous ne pouvez pas savoir les réponses étonnantes qu'elle me disait. Par exemple, si le diable avait fait disparaître une personne, comment s'y prendrait-il? Elle me répondit sans hésiter, il la brûlerait. Car une fois brûlé, il ne reste plus que des cendres. Voilà ce que me dit cette charmante jeune fille. Rien qu'à voir le visage de la gouvernante et de mon oncle, je savais que le poison était entré. Le poison t'en serait sans nul doute servi. Mais c'était impossible et trop risqué, étant donné que ma tante était sous surveillance médicale. Tandis que le feu... Je me demandais pourquoi mon oncle, au lieu de tuer sa femme, ne partirait-il pas ou ne demanderait-il pas le divorce? Il devait y avoir en plus de leur histoire d'amour une sombre histoire financière. Ceci me dégoûta. J'avais envie de dénoncer à ma tante. Et puis, un esprit malin en moi me dit « Tu as la chance unique d'assister à la préparation à un mort. » À connaître les coupables, peut-être à être le seul au monde à savoir la vérité à part eux. Laissons faire les choses. et je m'endormis le corps tranquille. Je savais que pendant mon sommeil, les esprits diaboliques allaient travailler. Chaque matin, j'allais voir ma tante dans sa chambre. Elle se remettait petit à petit de sa faiblesse et avait même le sourire. En arrivant, je l'embrassais et m'asseyais à ses côtés pendant qu'elle prenait son petit déjeuner au lit. Je la regardais en souriant. Elle me parlait et me disait qu'elle était inquiète pour son mari.
« Je le vois chaque jour dépérir, le pauvre. Il se fait tant de soucis pour moi. Il a beaucoup de soucis, ton oncle, tu sais. Les affaires, l'entreprise vont guère. Heureusement que j'ai ma fortune personnelle que m'a laissée mon père, une mine d'or au Chili. »
Donc, me disais-je, si mon oncle divorçait, il serait ruiné. Cette nuit-là, je fus réveillé par de grands cris. « Au feu ! Au feu !» Je me levai en vitesse, mis mon pantalon par-dessus ma chemise de nuit. Et mes chaussures. Fumée entrait dans ma chambre et sentait le feu. Sortait de ma chambre. Le couloir était tout en fumée, l'on n'y voyait rien. Trouvait la première marche et descendait. De temps en temps, j'étais bousculé par quelqu'un. En bas des escaliers, je voyais un rectangle noir. C'était l'ouverture de la porte d'entrée. Je m'y précipitais. Dehors, enfin! Je pouvais respirer librement. Je m'éloignais de la maison et allais près de mon oncle, la gouvernante et la bonne. L'on regardait la maison brûlée. Le gros des flammes provenait de la chambre de ma tante. Je les regardais. Rien, aucune émotion. Les secours arrivèrent pour éteindre l'incendie et commencèrent à faire ce qu'il fallait. Tout à coup, la bonne affolée. « Et madame ?» Un responsable des secours l'a entendu. Il s'approche. « Madame est dans sa chambre. »« Où ?»« La chambre là. » Mon oncle s'approche. « Mon Dieu, vous n'en faites pas, monsieur. Je vais voir. » Il retourne vers la maison, prend une capeline, un chapeau, se fait verser de l'eau et entre. Seconde, minute d'angoisse pour eux et moi. Le secouriste s'active à asperger d'eau la maison et les escaliers intérieurs. Sort de la maison, le responsable des secouristes avait dans ses bras ma tante. L'oncle, la gouvernante et moi, nous approchons. L'homme est tout essoufflé, sans le feu et est noir de suie. La tante aussi. « Elle est morte !» dit l'homme. Un homme s'approche de nous. « Mais elle a les pieds et les mains liés ? C'est un crime !» Deux gendarmes s'approchent. Faire une enquête. C'est un crime. Que tous les membres de la maison nous suivent. Le lendemain matin, après avoir passé passé la nuit à la gendarmerie, nous sommes tous présentés devant le gendarme brigadier. Gros homme à moustache assis à son bureau. Nous étions tous debout en face de lui.
Alors, qu'avez-vous à nous dire? Qui a mis le feu après avoir lié Madame Viviane Lambert?
Je m'avance. Dis-moi, monsieur.
Pourquoi?
Je ne peux rien vous dire. C'est moi et c'est tout. Il m'a demandé comment j'avais agi. C'était pas très difficile à expliquer. Je suis entré chez elle, hein? Maintenant, je vais avoir de nouvelles sensations. Celles que ressent un coupable condamné. Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Jeu pervers. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.